lecture dans la parole de Dieu, dans le livre de Josué, pour commencer. Josué, chapitre 2. Voilà, il manque quand même pas mal de frères et sœurs, c'est les vacances, mais on est heureux d'accueillir les vacanciers qui, eux, nous visitent. Hein, que le Seigneur vous bénisse parmi nous et qu'à votre retour dans vos églises respectives, eh bien, vous puissiez les saluer et que vous soyez en bénédiction là où Dieu vous a placé. Hein. Josué, chapitre 2, le verset 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant « Allez, examinez le pays et en particulier Jéricho ». Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. Au verset 8, nous lisons encore. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. » Au verset 17, nous lisons encore. « Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi, dans la maison, ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit, « Qu'il en soit selon vos paroles. » Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent, et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Amen. Nous lisons encore quelques lignes dans le livre du Cantique des Cantiques, le verset 1. Le Cantique des Cantiques, le verset 1. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galaad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Et au verset 11, tes lèvres distille le miel, ma fiancée, il y a sous ta langue du miel et du lait. Amen. Gloire à Dieu. On va ensemble prendre du temps ce matin, frères et sœurs, chers amis, pour méditer sur une comparaison, une image que le bien-aimé attribue à sa bien-aimée. Vous le savez, les mois derniers, nous avons à trois reprises déjà porté nos regards sur le livre du Cantique des Cantiques, ce merveilleux livre qui parle d'une histoire d'amour sublime qui unit le bien-aimé qui est berger avec la bien-aimée. Le bien-aimé préfigure et typifie le Seigneur Jésus qui a dit « Je suis le bon berger » et la bien-aimée, elle, représente l'Église, le peuple des rachetés. Et il y a une histoire d'amour absolument admirable, avec aussi des épisodes très variables, des séquences glorieuses, d'autres moins, parce que la vie chrétienne n'est pas une marche monocorde. Il y a des épisodes qui sont contrastés. Mais dans cette relation d'amour, alors il y a certains textes où la bien-aimée parle de son bien-aimé. Elle dit par exemple, « Mon bien-aimé est le plus beau parmi 10 000 ». Et c'est quelque chose de parlant qui donne une idée de l'intensité de l'amour qu'elle lui porte. Et puis il y a des textes comme celui que nous avons lu ici où c'est le bien-aimé qui parle à sa bien-aimée et qui parle de sa bien-aimée. Et là aussi, on est absolument bouleversé de lire les paroles que le bien-aimé prononce sur sa bien-aimée. Et l'idée dominante que j'aimerais développer ce matin, c'est la beauté que le bien-aimé trouve chez sa bien-aimée. Oui, parce que je crois que après nous avoir sauvés et fait de nous son peuple, Dieu porte ses regards sur son peuple et il veut se réjouir de trouver en son peuple des traits de beauté qui vont correspondre à son cœur et qui vont honorer sa sainteté et sa gloire. Dieu me regarde, Dieu te regarde, Dieu nous regarde. Il porte avec intérêt ses yeux sur son enfant au plan individuel, mais sur ses enfants, quand ils se rassemblent pour former un corps qui est l'Église, Dieu porte ses regards comme le bien-aimé l'a fait sur sa bien-aimée. Il s'est réjoui, il s'est honoré, il a exprimé une satisfaction intense en mettant en évidence cette élément de la beauté qu'il va déceler chez sa bien-aimée. On ne va pas voir les 7 ce matin, mais on va relever simplement un élément de beauté parmi les 7, là où le bien-aimé dit « Tes lèvres sont comme le cramoisi ». Et puis, quelques versets plus loin, « Tes lèvres, disent-ils, du miel, ma fiancée, il y a sous ta langue du miel et du lait, ta bouche est charmante. » Alors j'aimerais que nous puissions méditer, parce que ce n'est pas que de la poésie, ce n'est pas que de la littérature. Il y a bien sûr un message hautement spirituel que Dieu veut adresser à son Église, dont nous faisons partie. Et il y a donc ici une mention très claire qui touche à la bouche de la bien-aimée, ses lèvres, sa langue, vont attirer les regards du bien-aimé. En rapport avec la bouche, il faut reconnaître que celle du Seigneur Jésus est une source intarissable de paroles merveilleuses. Lorsque l'on est venu épier le Seigneur afin de le saisir, les huissiers, cependant, carapacés, hein, parce que pour faire ce travail, il faut avoir de la carapace, malgré leur carapace, ont dit à l'unisson, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Il sortait de la bouche du Seigneur des paroles qu'aucune autre personne n'était capable de prononcer. Les foules étaient bouleversées, saisies d'étonnement, d'émotion, d'admiration à entendre les paroles de Jésus. Que cela soit dans ses discours adressés à des foules ou dans des paroles nommément adressées à telle personne, les paroles du Seigneur ont toujours véhiculé une bénédiction, une puissance de guérison, d'encouragement, alléluia, paroles porteuses de salut et d'espérance. Et je ne dis pas ces choses au passé composé, mais on peut les dire au présent, parce que de la bouche du Seigneur, aujourd'hui encore, sortent des paroles véhiculant la bénédiction. Et je prie le Seigneur pour que ce matin, eh bien, une parole de Dieu en particulier vienne déverser dans un cœur en particulier une bénédiction particulière. Une parole de Jésus qui n'a jamais été secouru, encouragé, apaisé, rassuré lors d'une réunion, un culte, lors d'une lecture personnelle, d'un psaume ou d'un extrait de l'évangile, par une parole de Dieu, alléluia, une parole de Dieu qui est venue définitivement s'incruster dans ton cœur. Et à elle seule, elle a suffi pour te sortir de tes tumultes, de tes troubles et de tes combats, que le Seigneur soit béni. Eh bien, j'ai envie de dire ce matin que de même que nous sommes bénis par les paroles qui sortent de sa bouche, nous-mêmes sommes appelés à être comme la bouche de Dieu et avoir une bouche qui va sans cesse émettre une qualité de parole en correspondance avec le cœur de Dieu. Si tu sépares, dit Dieu à Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, alors tu seras comme ma bouche. Et l'Église va trouver parmi tous ces éléments de beauté cet élément particulier, d'être comme la bouche du Seigneur et d'avoir une langue qui va distiller non pas n'importe quelle parole, mais les paroles du royaume des cieux. Qu'en était-il, chers amis, avant que nous ne soyons au Seigneur? La Bible nous dit que le pécheur, avant qu'il ne rencontre Christ, va avoir dans sa bouche certaines expressions pas très très élogieuse, bien au contraire. Il y a un texte de la Bible qui dit qu'ils ont sous la langue le venin d'un aspic. Dans un autre texte, en Ésaïe, au chapitre 59, Ésaïe va dire « Nous grondons tous comme des ours ». Des paroles de révolte, de méchanceté, parce que quand un ours gronde, ça exprime la brutalité. Le même prophète dit, par contre, d'autres gémissent comme des colombes. Ce sont des plaintes, des soupirs d'impuissance, de souffrance, où l'on subit les choses. Il y a dans la bouche de l'homme naturel toutes sortes d'expressions. Toutes sont plus ou moins négative, parce que ce dont le cœur est rempli, la bouche parle. Et le fait d'avoir le cœur dans l'amertume, dans la vengeance, dans la frustration, dans la colère, ou bien dans un profond découragement, va s'exprimer de notre bouche. Et voici qu'un jour, je rencontre Jésus. Sa puissance salvatrice change mon cœur. Et en changeant mon cœur, il change mon langage. Et il change les propos qui sortent de ma bouche. Et là, ma bouche devient un des nombreux éléments de la beauté divine que Dieu place sur son enfant, sur ses enfants, sur son Église. Gloire à Dieu. Tes lèvres, nous dit le bien-aimé, tes lèvres sont comme un fil cramoisi. C'est pourquoi j'ai souhaité que nous lisions aussi ce récit que les lecteurs de la Bible connaissent bien, hein, le récit de ces deux espions que Josué envoie pour explorer Jéricho et les environs et qui sont recueillis par une habitante de Jéricho. Sa maison était au-dessus de la muraille, là. Une de ses fenêtres surplombait la muraille. Et Rahab, une prostituée, on peut donc imaginer son train de vie, son existence, faite quand même de souffrance, de douleur, de culpabilité, de sentiments de honte, de souillure, de dépravation, que sais-je. Eh bien, elle va ouvrir sa porte à ces deux espions, elle va les héberger, elle va même les cacher pour sauver leur vie. Et puis, elle va avoir un discours avant de les lâcher, un discours qui va exprimer que dans le cœur d'une pauvre prostituée, la foi est née. Voyez la grandeur du miracle de Dieu. Le plus bas tombé, celui sur lequel on ne miserait pas un euro, le plus bas tombé, peut expérimenter dans son cœur la naissance de la foi. Elle va leur dire, je sais, mais tu sais d'où? Tu as été à l'ITB? Tu as e-learning sur tel site chrétien? Comment tu le sais? Je le sais, parce que la réputation, la renommée des œuvres de l'Éternel qui vous a fait traverser la mer Rouge à sec et qui vous a donné, vous, un peuple de bergers, de vaincre deux rois au-delà du Jourdain. La réputation est parvenue à mes oreilles et ça m'a suffi pour avoir la foi. Je sais que seul l'Éternel Dieu est Dieu et je sais qu'il est avec vous. Je sais qu'il va vous donner victoire sur victoire, je le sais. Et parce que la foi est venue, alors elle va faire une demande. Elle va leur dire, lorsque vous viendrez prendre Jéricho, car vous allez prendre Jéricho. Alors souvenez-vous de moi et de tous les membres de ma famille. Usez de bonté envers moi, comme j'en ai usé envers vous, et donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. C'est tout simplement le salut, le plan du salut. Et les hommes vont répondre favorablement. Et pour matérialiser la chose, ils vont lui dire, tu vas prendre un fil cramoisi, l'attacher à ta fenêtre, là qui est sur la muraille de Jéricho, et tous ceux de ta famille qui seront dans la maison auront la vie sauve. Oui, tes lèvres sont comme un fil cramoisi. Vous l'avez compris, ce fil cramoisi, la couleur du sang, nous parle du sacrifice de Jésus. On l'a bien compris. De même qu'on va apposer du sang de l'agneau pascal sur les linteaux et les poteaux des portes des Israélites, en déclarant que tous ceux qui seront à l'intérieur de la maison seront épargnés, ils seront sauvés lorsque le jugement passera. De même, j'ai envie de dire que par la foi, Rahab s'est placé et a placé tous les siens sous le signe du sang de l'agneau. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de dire à quelqu'un, viens placer ta vie sous le signe du sang de Jésus. Plusieurs cantiques ce matin ont proclamé l'agneau immolé, l'agneau de Dieu. Faire mention de l'agneau de Dieu, c'est bien évidemment mettre en évidence le sacrifice. Le sacrifice de Jésus, qui n'est pas une triste fin dramatique, mais qui se solde par le « tout est accompli », victorieux, qu'il a prononcé juste avant de rendre son esprit à son Père. « Tout est accompli ». 3 jours après, il ressuscite. L'agneau immolé devient l'agneau ressuscité. Et il monte au ciel, il devient l'agneau intronisé. Et nous attendons l'agneau qui revient. Amen. Place ta vie au bénéfice du sang de Jésus, répandu une fois pour toutes à Golgotha il y a 2000 ans. Le sacrifice de Jésus, mes bien-aimés, c'est la réponse de Dieu à la misère humaine. Une seule solution. Le sacrifice de Jésus, c'est la clé, c'est la solution, c'est la victoire. C'est le moyen unique. La croix où Christ a donné sa vie, c'est l'antidote au péché. Et le sang de Christ répandu sur la croix, c'est l'antidote à tous nos péchés. La croix est l'antidote contre le principe, la loi du péché. Le sang de Jésus est la solution pour nous purifier et nous délivrer de tous nos péchés. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira n'avoir eu aucune autre pensée que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Tellement de nos contemporains essayent vainement de se changer, consultent, appliquent des thérapies novatrices pour se sortir de l'emprise de ce que nous savons être le péché, que eux peut-être appellent différemment, mais la Bible nous dit que c'est la loi du péché, et ils s'épuisent, et ils vont de déception en désillusion. La bonne nouvelle de l'Évangile proclame, en 2025, comme depuis le commencement de l'ère chrétienne, que Dieu a donné une solution au péché pour rendre libre le pécheur et en faire un racheté du Seigneur. Et cette solution, c'est le sacrifice de Jésus. Moi, je veux vivre toute ma vie sous le couvert du sacrifice de Jésus. Je peux oublier des tas de choses, mais il y a une chose que je ne veux pas et je ne peux pas oublier, c'est qu'un jour, mon Sauveur s'est chargé de la croix. Et en se chargeant de la croix, il s'est chargé de ma honte. Il s'est chargé aussi du châtiment qui me donne la paix. Je ne peux pas l'oublier. Je ne veux pas l'oublier. Et non seulement je ne veux pas, mais je veux faire la démarche volontaire et intentionnelle de placer et de replacer toujours au centre de ma vie chrétienne le sacrifice de Jésus. de Jésus, sacrifice vainqueur, libérateur, la rançon a été payée, ma dette est acquittée, une vie de liberté s'ouvre devant moi, que le Seigneur soit béni. Viens placer ta vie au bénéfice du sacrifice de Jésus. Attache le fil cramoisi à ta fenêtre. Place ta vie d'aujourd'hui, tes projets pour demain. Place tous les aspects de ton être intime sous le bénéfice du sang de Jésus. Mettez-vous à espérer, vous qui êtes malades, et placez vos maladies sous le couvert du sang de Christ, parce que dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. Recevez la guérison ce matin. Le prix a été payé. L'œuvre est accomplie. Alléluia. Oh, plaise à Dieu que là, ce matin, pendant que tu entends ces paroles, l'Esprit de Dieu te visite et la puissance du Seigneur te guérisse. Alléluia. Et que tu partes de ce culte complètement rétabli et restauré. C'est le Dieu des miracles. Place ta vie au bénéfice du sang de Jésus et du sacrifice de Jésus. Alléluia. La Bible nous permet d'affirmer ceci. C'est que la bouche de la bien-aimée, qui va tenir maintenant des discours, des paroles, des expressions très particulières, une qualité particulière, eh bien, sa bouche va avoir trois destinataires. L'Église a un message à adresser au monde. Allez par tout le monde et prêchez, proclamez. Je reviendrai tout à l'heure. La beauté que le bien-aimé trouvera dans sa bien-aimée consiste dans le fait que la bouche de sa bien-aimée va émettre un message unique, infiniment glorieux, et la première destination, c'est nos contemporains. Frères et sœurs, l'Église a quelque chose à dire aujourd'hui. Amen. Il y en a un qui aimerait la bâillonner, c'est l'adversaire de nos âmes. Mais le Saint-Esprit, qui est plus grand et plus fort, peut enlever le bâillon et libérer le message. L'Église a un message à donner à la société en perdition. On termine bientôt la formation, donc appelée celle du gagneur d'âme. On a parlé, rappelez-vous, pour ceux qui étaient là, de la Samaritaine. Sa bouche a exprimé un message extraordinaire. Elle n'était pas une théologienne chevronnée, mais elle venait de vivre quelque chose, sa vie venait de changer, soudain. Alors, elle laisse sa cruche, elle court, elle réveille les villageois qui étaient en pleine sieste, et la sieste orientale, faut pas y toucher. Mais elle réveille tout ce beau monde. Réveillez-vous! J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Elle évangélise la ville de Sichar. Les habitants se réveillent, ils écoutent les explications de la Samaritaine. Ça éveille en eux de la curiosité. Ils viennent eux-mêmes auprès de Jésus qui les enseigne et ils disent à la femme, nous croyons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Mais nous ne croyons plus à cause de ce que tu dis, mais nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons. Nous croyons fermement. La bouche de ce gadarénien possédé par les ténèbres, les démons, agité, se mortifiant lui-même. Et puis Jésus vient, Jésus chasse les démons, et cet homme est transformé. Il est assis, vêtu, dans son bon sens. Jésus le libère, le transforme, et sa bouche, à cet homme gracié va devenir l'émetteur d'un message. Il va témoigner, il va dire, il va diffuser la bonne nouvelle. Jésus, ce Jésus qu'on appelle de Nazareth, m'a libéré de mes tourments. Il a proclamé le bon nom de Jésus. Je crois que l'Église est appelée à redécouvrir peut-être, si nécessaire, l'urgence d'évangéliser. Merci Seigneur pour la chorale, samedi. Elle va chanter, alléluia, elle va proclamer. Mais merci Seigneur pour l'Église que nous formons. Et ma prière, c'est que Dieu en fasse une Église missionnaire. Amen. Une Église qui est libre de ses besoins égocentriques. Jésus a dit, mais votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il le sait, hein, que nos besoins perso ne viennent pas polariser nos pensées et nos énergies. Notre Père céleste ne permettra pas que nous manquions de quoi que ce soit. Qui veut dire amen? Alléluia! Il sait tes besoins et, écoute bien, il y a déjà pourvu. Amen! Et tu vas en faire l'expérience, jour après jour, semaine après semaine. Mets-toi, place ta bouche au service d'un message que tu dois émettre. La première destination, c'est la société dans laquelle nous nous trouvons. Le deuxième destinataire, eh bien, c'est nos frères et nos sœurs. Nous avons des paroles à apporter à un frère, à une sœur, que le Seigneur soit béni. L'apôtre Paul disait dans 2 Corinthiens 5, comme si Dieu exhortait par notre bouche. Est-ce que tu ne souhaiterais pas que Dieu t'utilise pour encourager, exhorter, pourquoi pas par une parole de connaissance, un don spirituel, une parole sincère, fraternelle, d'amour fraternel? Le bien-aimé dit, tes lèvres distillent le miel. Et il y a sous ta langue du miel et du lait. L'apôtre Paul, plus loin, dans l'épître aux Éphésiens, dira qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais quelques bonnes paroles. Amen. Quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce. Oh, je prie le Seigneur pour que, soit d'un pupitre, soit dans les rencontres comme ça fortuites, eh bien ma bouche puisse distiller le miel et le lait. Amen. Et ce n'est pas réservé à un groupuscule de privilégiés, hein. Il n'y en a pas. Ou alors, si, on est tous privilégiés. Mais ça concerne chaque enfant de Dieu. Mon frère, ma sœur, par ta connaissance intime de Christ, par ta relation de cœur à cœur avec ton Dieu sauveur, tu vas te placer dans les dispositions favorables qui vont lui permettre d'utiliser ta bouche afin de distiller le miel et le lait. Une parole de grâce, assaisonnée de sel, autrement dit désinfectée, hein, de tout mélange. Une parole qui va servir à l'édification, oui, parce que le lait, c'est ce qui est nourrissant. Le miel comporte des vertus loin d'être négligeables. Le miel va permettre de renforcer le système immunitaire. on vit des temps où les risques de contagion sont nombreux. Mais si nous voulons être armés contre les facteurs de contagion, on a le miel de la parole de Dieu. Remplis-toi de la parole de Dieu et que la parole de Christ habite abondamment parmi nous. Amen. Au lieu de nous raconter nos derniers affres, partageons nos derniers miracles. Amen. Faites-moi quelque chose. Racontons-nous les uns aux autres les bontés du Seigneur. Servons un bon plat d'encouragement qui va donner des forces et des ressources à ceux qui les assimilent. Le miel va permettre à l'athlète des performances. J'aspire à ce que ma vie de prière augmente en performance. Amen. Je ne veux pas être de ces chrétiens qui, après avoir prié une fois, deux fois, renoncent, démissionnent, baissent les bras, comme ce roi Joas qui s'est contenté de frapper trois fois sur le sol avec ses flèches là, et ça a irrité le prophète. Un prophète irrité, ça existe, eh ben oui, ça. Fallait frapper cinq fois, six fois. Tu as manqué de performance, tu as manqué de persévérance. Eh bien, le miel de la parole de Dieu va augmenter notre persévérance et nos performances. Performance de ma foi, performance de ma vie de prière, performance lorsque je témoigne de Jésus-Christ, performance dans mon service pour le Seigneur, quel que soit le service, performance dans la qualité de ma louange, que le Seigneur soit béni. Frères et sœurs, que nos lèvres soient marquées par le cramoisi du sacrifice de Jésus et que Christ crucifié soit au centre du message que nous adressons au monde. Que Christ crucifié soit un message de victoire adressé à nos frères, à nos sœurs. Calme-toi, apaise-toi, rassure-toi, il a payé le prix. Il a tout accompli. Dépouillez les dominations, place-toi simplement au bénéfice de sa victoire, afin que sa victoire devienne ta victoire, que le Seigneur soit béni. Et j'aimerais terminer avec, effectivement, le troisième destinataire. Je ne l'ai pas mis en dernier parce qu'il serait moins important. Bien au contraire, c'est certainement celui qui est le plus important. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Notre bouche est appelée à prononcer des paroles adressées à notre Dieu et ayant comme conséquence d'honorer Dieu, de réjouir le Seigneur et... Tenez-vous bien, pourquoi pas même, de l'étonner. Quelqu'un dira, peut-on étonner le Seigneur? Eh bien oui, oui. La Bible dit, l'Éternel s'étonne. Hein? Donc, Jésus a été étonné. Lorsqu'on lui a véhiculé cette parole du centurion, là où tu es, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Quelle parole! Jésus l'a apprécié comme de l'or. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et immédiatement, la puissance du Seigneur à distance a guéri le serviteur mourant. Que Dieu soit béni. Renvoie-la, Seigneur, renvoie-la. Elle nous importune. Elle revient à la charge. Et Jésus dit, mais je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Elle revient à la charge. Et Jésus dit, mais il n'est pas bien de donner aux petits chiens le pain des enfants. Elle revient à la charge. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens, ils se nourrissent des morceaux de pain qui tombent de la table. Donne-moi simplement un petit morceau de ta bénédiction, ça suffit pour guérir et délivrer ma fille. Oh, quelle parole! Quelle parole! J'aimerais tellement prononcer dans certaines circonstances, des paroles d'une qualité comparable. Des paroles qui honorent le Seigneur. Des paroles qui l'étonnent positivement. Non plus ces paroles naturelles prononcées trop souvent à l'emporte-pièce sur un coup de réaction intempestive. Tout cela que le Seigneur nous en délivre et qu'il donne à notre bouche d'être un élément de beauté en portant ses regards sur nous, que le Seigneur se réjouisse. Waouh, que tu es belle, ma fiancée, mon amie, que tu es belle. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi. Ta bouche est charmante. Frères et sœurs, les moments où nous chantons les cantiques ne sont pas simplement un prélude religieux qui prépare la prédication. Les cantiques que nous chantons doivent avoir une intensité spirituelle qui va réjouir le Seigneur. Qui va dire amen à ça ? Je m'interdis de chanter par routine. Je m'interdis de chanter avec un regard périphérique pour voir la tenue vestimentaire de l'un ou de l'autre. Je m'interdis de permettre à la religiosité m'engourdir et appauvrir le culte dont le Seigneur est tellement digne. Et puis, lorsque tu ouvres ta bouche, justement, cette bouche qu'il a promis de remplir, et lorsque ta bouche, remplie par le Seigneur, prononce les louanges qu'il élève, l'adoration qui lui revient, mais c'est la gloire de Dieu. Et j'aimerais vous dire ceci, dans ces moments de sommeil spirituel, nous pouvons vivre des visitations extraordinaires. Oui ou non ? Mais le Saint-Esprit peut brusquement nous visiter dans une dimension inattendue. Il peut nous émerveiller, il peut brusquement agir, toucher au plus profond, les cœurs peut-être revêches, fermés, que sais-je, dans des moments où l'Église ressemble à la bien-aimée, dont la bouche est charmante et qui adresse à son divin destinataire l'émerveillement devant sa personne. Il y a des moments... Les mots humains sont insuffisants, c'est pas vrai ? Alors ils les entendirent tous parler en langue et raconter les merveilles de Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit a aussi cette conséquence merveilleuse. Il nous permet de raconter en esprit les merveilles de Dieu. Alléluia. Et là, je dépasse les superlatifs humains et j'apporte, ma bouche apporte une qualité d'adoration qui réjouit le Seigneur. Oh, j'aimerais réjouir le Seigneur. Et vous, que Dieu nous aide, qu'il nous fasse grâce. Alors peut-être quelqu'un est en train de se dire, moi je suis plutôt comme une colombe qui gémit en ce moment. Que le Seigneur te visite. N'en sois pas culpabilisé parce qu'on peut tous passer par des épisodes semblables. Que le Saint-Esprit te visite, qu'il remplace tes gémissements par des cris de victoire et des louanges en son honneur. Un autre me dira, en ce moment je suis comme un ours, faut pas m'approcher de trop près. Je suis radioactif. Je suis monsieur Tchernobyl. Faut pas me taquiner parce que ça va démarrer. Que le Seigneur te visite aussi. Et que l'ours se transforme en peluche docile. Et qu'il calme tes humeurs, tes colères illégitimes. Et que sa paix prévale sur tes grondements, qu'il remplace tes grondements, peut-être au début par une prière de repentance. Oui ou non ? Combien de fois ça m'est arrivé de dire « Seigneur, mais pardon !» Et comme on actionne le gouvernail d'un bateau qui dérive pour le ramener dans le bon cap, la repentance a ramené le bateau dans le bon cap. « Seigneur, pardon !» Mais j'ai eu une pensée, mais monstrueuse. Oh, j'ai réagi d'une manière irréfléchie. Alors, le Seigneur nous calme, nous apaise, nous convainc de repentance. Nous nous repentons et en nous repentant, sa présence, sa communion, sa paix inondent à nouveau notre être. Nous sommes restaurés, rétablis. Alors si quelqu'un est comme ça, un peu là, que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma sœur, et que les appréciations hâtives, les conclusions erronées que tu t'es données disparaissent et laissent place à la sagesse de Dieu, à la paix de Dieu. Sois comme Job, sois comme Job, soyons comme Job, qui a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, eh bien que l'Éternel soit béni. Alors ça, c'est une bouche charmante qui fait la beauté du croyant et qui réjouit et qui honore le Seigneur. Voulez-vous que nous nous recueillions quelques instants